Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux L.
Bonjour à toutes et tous. Eh bien voilà, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour débuter cette année. Nous sommes le 8 janvier 2023. Et oui, ça fait bizarre de dire 2023. Voilà, j'espère que vous avez bien terminé l'année 2022. Et puis, pour bien la commencer, cette nouvelle année 2023, eh bien, je vous propose un voyage. Alors, vous allez me dire, ah, chouette, un voyage, cocotier, palmier. Pas tout à fait. Je vous emmène de terre. On part de la terre pour aller sur Mars. Ah oui, là c'est pas un voyage ordinaire, il va vous falloir quelques années, il va vous falloir un petit peu de bagage, prévoir et puis dire au revoir à certains de vos proches parce que vous n'allez pas revenir tout de suite. En tout cas, c'est un merveilleux ouvrage que je vous propose aujourd'hui avec un passionné, deux passionnés, puisque les deux, dirais-je, protagonistes vont de pair avec ce merveilleux voyage et puis cette connaissance de la Terre, de notre belle Terre. Et puis on va en apprenant sur Mars, on apprend également sur notre bonne vieille Terre. Pour nous parler eh bien, de ce beau livre, un spécialiste, un passionné sans doute, eh bien, quoi de mieux que de rêver sur Terre et de rêver sur Mars pour mieux vivre notre belle planète. Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre ouvrage Mars-Terre aux éditions Belin. Et on précise que les photos de la Terre ont été faites par Yann Arthus-Bertrand. Alors, vous êtes journaliste scientifique, vous êtes rédacteur en chef de l'ouvrage Ciel et Espace, bien évidemment. Et bien sûr, Yann Arthus-Bertrand, et bien les documentaires comme Home, Human, etc. Bref, toutes, je dirais, deux grands humanistes pour nous protéger contre nous-mêmes, pour protéger notre Terre de manière à pouvoir la conserver et la préserver le plus longtemps possible. Alors, j'imagine qu'on ne fait pas un tel ouvrage sans passion. On peut dire que l'histoire de Mars, pour nous, a commencé un 20 juillet 1976.
L'histoire médiatique de Mars, au sens même image, a commencé ce jour-là, quasiment, parce que c'est le jour où la première sonde automatique s'est posée avec succès à la surface de Mars.
Viking 1,
et a envoyé le premier paysage.
Ouais,
voilà.
Viking 1, voilà. Premier paysage, oui.
Et la sonde Viking 1, une sonde américaine.
Et on s'aperçoit, que Mars est rouge, hein, cette couleur ocre, et puis qu'elle dénombre nombre de mystères, et surtout, au fur et à mesure du temps et de son étude, est-ce qu'on peut dire, au travers de votre ouvrage, en tout cas, c'est plus ou moins indiqué, que Mars et Terre pourraient être des sœurs jumelles?
Alors, ce qu'on voit de l'exploration qui a été faite par des sondes spatiales, on évoquait à l'instant Viking 1 qui s'est posé à la surface de Mars. Il y en a plusieurs depuis qui se sont posés, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont tourné autour de Mars et qui l'ont photographié depuis l'espace et qui continuent à le faire. Donc tout ce qu'on a appris de Mars vient de ces sondes spatiales plus quelques observations astronomiques, et ça nous dit qu'effectivement, il y a 4 milliards et demi d'années, Mars et la Terre pouvaient être considérées comme des jumelles, dans le sens où les conditions qui régnaient à leur surface semblaient être relativement, pas identiques, mais similaires. C'est-à-dire qu'il y avait une atmosphère épaisse, toxique dans les deux cas, sur la Terre, avant que ça soit respirable, c'était toxique, c'était essentiellement du CO2, c'était le cas sur Mars, avec des températures, ma foi, malgré tout assez clémentes, et ces températures et cette pression qui permettaient l'existence en abondance d'eau sous forme liquide. Il y a de la glace aujourd'hui sur Mars, il y a de la glace sur Terre aussi, mais il y a de l'eau sur Terre, et sur Mars, il n'y en a plus. Donc, ces deux planètes étaient jumelles, peut-être à leur naissance, il y a 4 milliards d'années, peut-être qu'elles le sont restées pendant quelques centaines de millions d'années, mais aujourd'hui, clairement, leurs destins ont divergé. C'est pour ça que le titre de l'ouvrage, c'était Terre-Mars, destin croisé. Leur destin a vraiment pris des chemins différents par la suite.
Alors, est-ce qu'on en connaît les raisons? Il y a des choses assez troublantes. Vous dites, il y a des sondes qui sont parvenues depuis, qui nous ont donné d'autres indications, d'autres éléments. Il y a des traces comme des volcans, des cratères. Donc, on peut supposer qu'il y avait peut-être aussi des paysages relativement similaires.
Oui, il existe sur Mars des paysages qui ressemblent à ceux de la Terre. Alors évidemment, ce sont des paysages assez minéraux.
Oui.
Parce que, comme vous le savez, sur Mars, il n'y a pas de vie. Enfin, oui. Pas de vie florissante, aussi florissante que sur Terre. Donc il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de règne animal. Oui. Donc tout ce qui ressemble, qui se ressemble entre ces deux planètes, ça reste du domaine de la géologie. Vous parliez des volcans, oui, c'est le cas. Il y a un volcanisme aussi qui se manifeste sous forme de failles. Il y a des failles tectoniques. Mmh. Il y a d'anciennes vallées fluviales, aujourd'hui asséchées sur Mars, mais qui ressemblent au réseau fluviatile qu'on peut rencontrer sur Terre. Mmh. Donc il y a aussi des étendues désertiques avec des dunes qui bougent. Il y a des phénomènes atmosphériques qui se ressemblent, comme par exemple des tornades de poussière. Il y a des régions polaires avec des calottes glacées. Donc il y a sur Mars et sur Terre, malgré tout aujourd'hui, malgré leur divergence, des choses qui se ressemblent et qui rappellent ce passé commun. Mm-hmm. Et finalement, ce qui fait que les planètes ont des choses en commun, c'est que ce sont toutes les deux planètes telluriques, c'est-à-dire des planètes constituées de roches avec une surface solide sur laquelle on peut marcher.
Oui.
Ce qui fait aussi leur différence, essentiellement, d'après ce qu'on en comprend aujourd'hui, c'est leur masse et leur taille. C'est-à-dire que Mars mesure un diamètre qui est de la moitié de celui de la Terre. Mm-hmm. Donc elle a une masse beaucoup plus petite que celle de la Terre. Et cette planète, en fait, s'est refroidi assez vite. Vous savez que les planètes sont chaudes à l'intérieur, c'est des roches très chaudes, comme c'est le cas sur Terre.
Oui.
C'était le cas sur Mars aussi, mais du fait de la petite taille, de la petite masse, le phénomène de refroidissement, qui est à l'œuvre sur Terre, mais qui va encore durer des milliards d'années, a été beaucoup plus accéléré sur Mars, ce qui fait que, en quelque sorte, le moteur qui permet à une planète de rester vivante, même ne serait-ce que sur le plan géologique, s'est rapidement grippé sur Mars.
Mmh.
Et c'est surtout la principale origine de la différence entre ces deux planètes.
Et alors, on est-ce qu'on connaît ou est-ce que l'on a une idée, est-ce que les scientifiques, les observateurs que vous êtes et les scientifiques en général, savent pourquoi leur destin s'est séparé au bout de toutes ces années? Est-ce qu'on en connaît les raisons? En tout cas, est-ce qu'on peut en approcher?
Oui. Oui, la raison profonde, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est la masse. Ça peut paraître un peu bête comme raison, mais voilà, quand un corps solide est chaud, comme la Terre ou comme Mars au départ, ça va prendre d'autant plus de temps de le refroidir qu'il va être massif. Et donc Mars est beaucoup moins massive.
Mmh.
Et ce qui fait que tout ce qu'on observe sur Terre, par exemple, la tectonique des plaques, par exemple, le volcanisme. Le volcanisme joue un grand rôle dans le renouvellement de l'atmosphère sur Terre. Ça projette des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, par le fait qu'il y a un cycle de l'eau, une atmosphère qui se renouvelle et qui est dense, etc., ce CO2 se retrouve dans les océans ensuite, puis retombe dans des roches qui sont réinsufflées à l'intérieur de la Terre. Et il y a un cycle comme ça et ça ressort sous forme de volcanisme sur Mars. Du fait du refroidissement interne, tout ça a eu lieu sans doute au début. On ne sait pas si une tectonique des plaques s'est amorcée.
Oui.
Il y a certains indices qui laissent penser que ça aurait pu, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est resté à un stade très embryonnaire.
Mmh.
Donc, c'est même pas sûr.
Mmh.
Mais par contre, il y avait du volcanisme. Donc, cette espèce de cycle de l'atmosphère s'est amorcé.
Mmh.
Il a duré quelques centaines de millions d'années.
Mmh.
Mais du fait du refroidissement interne, il n'y a plus les volcans actifs, ou en tout cas suffisamment actifs, pour renouveler l'atmosphère qui, elle, s'évapore dans l'espace. Elle partait aussi dans l'espace. Et au bout d'un moment, comme il n'y a plus de source pour l'atmosphère, celle-ci s'est tarie, en quelque sorte, s'est échappée complètement. Et aujourd'hui, par exemple, sur Mars, il y a une pression atmosphérique qui est pratiquement le millième de celle qu'on connaît sur Terre.
Mmh.
Donc, en gros, c'est presque équivalent au vide de l'espace.
Oui.
C'est pratiquement nul comme pression atmosphérique.
Mmh.
Donc, tout ça fait que cette petite taille, cette petite masse est vraiment la source de la divergence des deux destins.
Mmh.
Si Mars avait été plus gros, c'est marrant parce que elle est sans doute trop petite parce qu'elle avait une grosse planète à côté qui s'appelle Jupiter.
Jupiter,
qui, au début, il y a sans doute... Ça semble être privé de dessert, en quelque sorte. Donc, les roches qui se baladaient dans l'espace et qui allaient constituer Mars ont été plutôt attirées par Jupiter, et il en a manqué à Mars pour devenir une planète aussi grosse que la Terre. Donc, ça a peut-être tourné court à cause de la plus grosse planète du système solaire. Mais si Mars avait été plus grosse, comme la Terre ou Vénus, peut-être on aurait aujourd'hui une fausse jumelle, ne serait pas identique parce qu'elle est plus loin du Soleil.
Il y aura peut-être une vie différente.
Peut-être. Alors on peut épiloguer,
on n'en sait rien, on peut extrapoler.
Voyez,
on peut faire marcher l'imaginaire, en tout cas.
Exactement, mais vous voyez, Vénus, qui a la même taille que la Terre et qui est plus près du Soleil, c'est un enfer aussi, mais pour d'autres raisons.
Il y a
une atmosphère qui est super dense.
Oui, irrespirable.
Voilà.
Alors, par contre, à contrario, c'est ce qu'en fait, on en apprend, ça nous permet d'apprendre beaucoup sur notre Terre en étudiant Mars.
Et oui, parce que du fait de que Mars se soit grippé, en quelque sorte, en continuant avec cette terminologie.
On va chercher le pourquoi du comment, ce qui nous permet de mieux comprendre les phénomènes qui se passent sur Terre.
Exactement, parce que là, on peut aller voir sur Mars des choses qu'on ne peut plus voir sur Terre et qui ont peut-être eu lieu sur Terre. Notamment, le truc le plus intéressant pour tout le monde, c'est l'origine de la vie. On sait qu'il y a de la vie sur Terre, on en est la preuve.
On en est, voilà, vous et moi, entre autres.
mais par quel hasard est-on passé de l'inerte au vivant? Par quel miracle est-on passé de molécules complexes qui pouvaient s'assembler, mais
de l'invivable au vivable, de l'invivable au vivable.
Exactement. Alors, sur Terre, toutes ces traces de cette époque-là, qui datent d'environ 4 milliards d'années, ont quasiment été toutes effacées. Peut-être toutes effacées parce que le vivant lui-même a transformé l'atmosphère de la Terre. Je disais tout à l'heure que l'atmosphère de la Terre était toxique au début. C'était du CO2. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une plus grande proportion d'oxygène.
Oui, bah heureusement. Parce que...
mais cet oxygène a été apporté par la vie. Le fait que la Terre soit une planète vivante sur le plan géologique, c'est que toutes les traces qui pouvaient subsister de cette époque-là ont quasiment disparu de la tectonique des plaques, etc. Sur Mars, c'est pas le cas. Donc, si par un hasard formidable, les mêmes conditions étaient réunies, ou à peu près les mêmes, sur Mars et sur la Terre, sur Mars, on peut aller les retrouver en grattant le sol, puisque tout ça s'est arrêté il y a très très longtemps.
Très longtemps.
Aller étudier Mars, c'est peut-être découvrir...
Mieux comprendre...
Le mystère de la vie sur Terre.
En pensant et en se disant que peut-être, et je vais reprendre une célèbre phrase d'un film que j'aime beaucoup, si nous sommes seuls dans l'espace, c'est un beau gâchis d'espace. Mais ça c'est une autre histoire.
Absolument. Mais... voilà, ça répond aussi le fait d'aller chercher sur Mars s'il y a eu de la vie ou s'il en subsiste encore. Ça peut être sous forme embryonnaire, sous forme de bactéries,
etc.
Bien sûr. En sous-sol, forcément, parce qu'il faut protéger des rayons. Mais la réponse à cette question est fondamentale. C'est-à-dire que si jamais il y a eu de la vie, à supposer qu'elle ait disparu, ça veut dire que dès qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies, la vie apparaît. Par contre, si malgré la similitude des conditions initiales entre la Terre et Mars, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de la vie sur Mars, eh bien, ça veut dire que ici, sur Terre, il y a eu vraiment une conjonction de conditions plus complexes encore que ça pour arriver au règne du vivant. Donc ça, ça donnerait raison plutôt aux biologistes qui sont eux pessimistes parce qu'ils disent il faut énormément de conditions pour que la vie apparaisse. Et à contrario, si on trouve qu'il y a eu de la vie sur Mars, ça donnerait raison aux astronomes qui sont plutôt, on va dire, optimistes et qui se disent il y a beaucoup de planètes partout.
Dès que
quelques conditions sont réunies, c'est peut-être la vie qui apparaît.
C'est vrai qu'on a envie de se dire pourquoi nous, pourquoi seulement nous? L'univers est tellement immense, les galaxies, les planètes, les étoiles, pourquoi que nous? C'est ça, la question elle est là, pourquoi il y aurait que nous? Pourquoi seulement nous? Même si effectivement il faut des conditions drastiques pour que la vie pourquoi sur la Terre et pourquoi pas ailleurs? Enfin voilà.
Et c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est une chance pour nous d'avoir une planète comme Mars qui est proche, parce que répondre à cette question en explorant des planètes qui sont autour d'autres étoiles, c'est très loin, et pour l'instant, même si les télescopes font des progrès sur des instruments de plus en plus puissants, ça reste loin, on n'est pas prêt d'approcher la réponse, alors que sur Mars, on a presque un laboratoire
à portée de main.
Voilà. Aujourd'hui, qui pourrait nous donner des réponses assez rapidement dans quelques dizaines d'années, par exemple.
Mais alors, ce qui peut aussi tenter à prouver, ou en tout cas à démontrer, de dire que notre univers, que c'est fragile, que ce monde que nous avons, que cette Terre que nous avons, elle est fragile, que ça peut nous diriger aussi vers une culture un peu plus protectrice de cette planète où les équilibres sont fragiles, hein, que ce soit l'eau, le vent, la Terre, ce que nous respirons. Est-ce que cela nous rend aussi plus humbles et plus précautionneux, à votre avis?
Moi, j'ai l'impression que le fait d'aller voir ailleurs que sur Terre nous dit un message, c'est que l'espace et l'univers, ils sont immenses et ils sont majoritairement hostiles. Et que donc, nous, on est sur une oasis. Et que cette oasis est ridiculement petite.
Et donc,
c'est un petit vaisseau spatial dans lequel on est tous. Les astronautes qui sont allés autour de la Lune.
Quelle chance ils ont.
mais ils ont eu la chance de partir voir un autre monde qui est totalement hostile, encore plus que Mars. Et de là-bas, ils voyaient encore la Terre, qui était la seule tache de couleur dans l'univers, dans le noir du ciel.
Incroyable.
Et donc, ça nous dit combien nous sommes sur une planète à part et combien ces équilibres sont fragiles. On les met en péril par nos modes de vie. Alors, c'est pas conscient, mais c'est l'accumulation de plusieurs générations, le mode industriel qui fait que le climat change. On est en train de changer les choses sur Terre.
Bien sûr.
Ça, depuis beaucoup plus longtemps. Même les premiers sapiens ont commencé à changer l'équilibre de la forêt en étant des chasseurs-cueilleurs, puis des agriculteurs, etc. Aujourd'hui, on arrive à un paroxysme qui met en danger les équilibres de la planète dans un laps de temps relativement court. Donc, ça devient un peu effrayant. Et quand certains pensent aller coloniser Mars et la rendre habitable.
C'est ce que j'allais vous dire, oui, alors ça...
Voilà, ça... on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait ici. Donc, ça me paraît assez illusoire d'imaginer en très peu de temps rendre Mars habitable pour y faire une humanité 2.0 qui, par ailleurs, à mon avis, n'aurait guère d'avenir, puisque si on ne change pas les mentalités, on va reproduire la même chose là-bas.
Oui. Donc, ça, c'est l'utopie de certains milliardaires un peu fous qui imaginent que... Mais moi, je pars du principe, et ça n'engage que moi, occupons-nous déjà de notre Terre pour bien y vivre et apprendre effectivement de ce qui nous entoure pour mieux, justement, gérer les choses et prévenir les éventuels problèmes qui pourraient se poser ou arriver. Voilà. Enfin,
oui, bien sûr. Et le fait, par exemple, d'aller voir Mars, ça n'est pas à se détourner de la Terre.
Au contraire, bien sûr.
C'est une planète qui nous permet de comprendre mieux le fonctionnement de l'ensemble des planètes, donc de la Terre. Mars est quelque chose d'un peu plus simple parce que justement, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les continents, il n'y a pas, il y a pas tout le cycle atmosphérique, etc. Mais donc, on apprend beaucoup sur la mécanique des planètes sur l'histoire des planètes. Et donc, si à un moment donné, il y a des actions à faire ici pour que ça aille mieux, la réponse se trouve aussi en explorant les autres planètes. D'ailleurs, il n'y a pas que Mars.
C'est
intéressant d'aller explorer Vénus.
Vénus, Jupiter. Jupiter.
Il subit un effet de serre incroyable.
Oui, donc, tout à fait. Non. Alors, est-ce qu'à l'étude de Mars, alors, c'est une question de néophyte, vous savez, c'est très romanesque finalement pour nous, pauvres terriens, Mars et aller sur la Lune, etc. Parce que la Lune aussi est bien plus près encore, et ça c'est encore une autre histoire. Mais est-ce qu'il y a pu y avoir une forme de Pangée, une diversité des continents, est-ce qu'il y a pu y avoir ces choses-là sur Mars il y a très longtemps?
Sur Mars, non. C'est une planète avec un socle continental unique.
Continental unique, d'accord.
Peut-être qu'il y a eu, il y a des scientifiques qui soupçonnent un début de création d'un continent sur l'hémisphère sud, mais personne ne s'est encore posé dans l'hémisphère sud de Mars. Il faudrait l'analyser des roches sur place, c'est pas sûr du tout. Tout ça, c'est à distance qu'on voit, donc c'est de la géomorphologie. Mais non, Mars est c'est comme un œuf, avec une planète avec un intérieur et une coquille bien dure tout autour. C'est d'ailleurs pour ça que le volcanisme de Mars, c'est ce qu'on appelle un volcanisme de point chaud. C'est-à-dire, c'est un endroit où il y a de la chaleur qui a voulu remonter de l'intérieur.
Oui.
Et la chaleur, elle tend de toute façon à s'évacuer. Il faut qu'elle sorte à un moment donné.
Mmh.
Et donc, ça a percé la croûte à un endroit, à quelques endroits. Et ces volcans-là, ils sont restés à alimenter pendant plusieurs centaines de millions d'années.
Mmh.
Et c'est pour ça que ce sont les plus grands du système solaire. Le plus grand volcan se trouve sur Mars. C'est Olympus Mons, le mont Olympe, qui mesure 27 km de haut et qui mesure 600 km de diamètre. Donc c'est un volcan bouclier type hawaïen.
Ah oui.
À Hawaï, c'est pareil, mais sauf qu'on voit que le sommet qui dépasse de l'eau.
Oui.
Ce volcan, c'est une fois qu'il s'est quasiment éteint, il était immense, il était démesuré. Le volcanisme ne s'est pas déplacé, ça a toujours été au même endroit.
D'accord.
Donc c'est c'est pour ça que sur Terre, ça bouge, les roches, la Terre d'aujourd'hui, où vous faisiez allusion à la Pangée, elle ne ressemble pas du tout à la Terre d'il y a un milliard d'années ou plusieurs centaines de millions d'années.
Tout à fait. Alors, dans votre ouvrage, alors un tel ouvrage, bien sûr, ça demande certainement beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. On le disait, les photos de la Terre sont de Yann Arthus Bertrand. Comment s'est passé votre travail de collaboration? Comment s'est passé l'établissement de... C'est un livre magnifique avec des photos, des textes. C'est vraiment un très bel ouvrage. La couverture elle-même, la couverture elle-même est très belle. Hein, Mars et Terre. Comment se passe une telle collaboration entre deux passionnés, deux scientifiques, deux amoureux de notre belle planète bleue, alors, puisqu'elle est bleue.
Oui, alors on s'est connus par l'entremise de notre éditeur commun au départ.
Oui.
On ne se connaissait pas. Enfin, moi, je connaissais Yann Arthus Bertrand comme tout le monde.
Comme tout le monde, bien sûr.
Et donc, j'ai fait part du projet de faire un livre sur Mars, de comparer à la Terre. Il a été relativement emballé. Et lui a photographié bien des endroits sur Terre avec ça a commencé avec la Terre vue du ciel, on se souvient même de cet ouvrage
très beau,
remarquable, mais pas que vue du ciel, donc il y avait dans son fond photographique de quoi alimenter non seulement la comparaison entre la Terre et Mars, mais l'alimenter de manière à avoir un regard artistique. Donc j'étais en collaboration avec lui, j'ai dit il faudrait telle et telle région de la Terre. Alors, de temps en temps, c'est arrivé qu'il ne les avait pas. Donc, il y a quelques photos qui ne sont pas de lui dedans parce qu'on ne peut pas être partout, même quand si on a la Terre. Majoritairement, il a été à peu près partout.
Mm-hmm.
Et donc, on a essayé de trouver les photos qui, à la fois, montrent la similitude entre les différents endroits de Mars et de la Terre, mais aussi avec un regard, pas simplement. Sinon, on se serait contenté de photos satellites.
Bien sûr, bien sûr. Alors vous, en tant que journaliste scientifique, on le disait, rédacteur en chef de Ciel et Espace, est-ce que vous aimeriez aller sur Mars, Philippe Hénarejos?
Moi, personnellement, oui, mais j'ai toujours rêvé d'aller sur la Lune et sur Mars. mais ça, je crois que
la quasi-totalité des humains, vous croyez?
Ouais, voilà. Ce que la totalité des humains ont en eux, finalement, c'est cette propension à vouloir aller explorer, à être curieux, à aller voir les autres mondes.
Il y a du Jules Verne en chacun de nous?
Oui, certainement, je crois. Alors, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir le laisser s'exprimer parce que l'existence fait qu'on est pris par des contingences matérielles et beaucoup sont dans ce cas. Mais moi, j'ai la chance de faire un métier où je réfléchis, où je me projette. Et ce voyage, par les sondes spatiales et par les astronautes qui sont allés sur la Lune, je l'ai fait par procuration déjà. Oui, je rêve d'aller voir ça. Et... curieusement, je ne suis pas complètement convaincu que l'espèce humaine doive absolument s'installer partout et envahir
tout.
D'ailleurs, que même si on trouve sur Mars une vie embryonnaire, finalement, ce serait ça les Martiens.
Mais ils ne sont pas verts, ils seraient rouges.
Ils seraient rouges, ce serait peut-être juste des bactéries, des choses comme ça. Mais de quel droit irions-nous nous installer? Et c'est pour ça que le terme coloniser Mars,
ça me passe trop, ça me plaît pas.
Employé par exemple Elon Musk, qui est le plus célèbre
de ses
fans aujourd'hui, me gêne un peu parce que s'installer explorer peut-être un jour dans un futur très 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 lointain, on trouvera un monde où on pourra aller s'installer aussi et pour continuer à accroître notre connaissance de l'univers, de l'endroit où on est.
Oui.
Mais en tout cas, à ce stade aujourd'hui, on sait qu'à des années-lumière à la ronde, il n'y a absolument rien. Donc, il faut continuer à explorer. Moi, j'aimerais aller sur Mars pour explorer, mais aussi pour revenir sur Terre, pas pour y rester.
J'imagine. Alors, là, on parle de Mars et bien sûr de notre Terre, mais j'ai envie de faire une petite aparté quant à la Lune, parce que bien évidemment, la Lune est bien plus proche.
Oui.
On y est allé, les astronautes ont marché sur la Lune, etc. Donc ça, c'était fantastique. Mais est-ce que la Lune nous en a appris aussi autant qui nous permet de mieux comprendre notre Terre? Est-ce qu'il y a aussi des possibilités de vie plus probables, plus proches sur la Lune comme sur la Terre?
Alors, la Lune nous a appris énormément de choses sur la Terre et sur toutes les planètes du système solaire. C'est-à-dire que l'histoire que les scientifiques dressent aujourd'hui de toutes les planètes et de la Terre en particulier vient essentiellement de ce que les astronautes américains ont trouvé sur la Lune.
Trouvé et ramené de la Lune.
C'est-à-dire, ce sont des roches qui ont été étudiées dans des laboratoires terrestres, donc avec des moyens considérables. Tout ça nous a permis de dater les planètes.
Oui.
Tout ça nous a permis de dater les différentes époques qui se sont produites dans le système solaire. Donc c'est énorme. Ça nous a permis de comprendre d'où vient la Lune, comment elle s'est créée, et ça c'est une partie de l'histoire de la Terre, puisque c'est le résultat, a priori aujourd'hui on croit, d'un cataclysme, d'une protoplanète qui a percuté la Terre, qui a projeté du matériau en orbite autour de la Terre, et que ce matériau s'est réaggloméré pour faire la Lune.
Incroyable.
Et alors la Lune donc nous raconte tout ça. Par exemple, quand on date les terrains sur Mars, c'est grâce à la Lune. Parce que on a ramené des roches lunaires qu'on a datées en laboratoire, donc c'est une datation absolue, très fiable. Mais on sait où on les a trouvées, et on voit le nombre de cratères d'impact qu'il y avait autour. Et les cratères d'impact, on sait qu'ils étaient très nombreux au début du système solaire, et puis qu'ils diminuaient selon une courbe un peu particulière. Et on a appliqué ça aux autres planètes. Parce que sur Mars, jusqu'à présent, on n'a pas directement d'échantillons venant de Mars. Et donc, les datations qu'on fait sur Mars, c'est une extrapolation des datations qu'on a fait sur la Lune. Et tout ça, c'est pareil sur Mercure, sur Vénus, sur les satellites de Saturne, etc. Donc, vous voyez, le bénéfice d'avoir envoyé simplement 6 équipages de 2 hommes, donc 12 hommes, marcher sur la Lune en scaphandre pendant en tout 81 heures pour ramasser des échantillons et avoir parcouru quelques dizaines de kilomètres, ça nous a ouvert le livre de notre propre histoire et de l'histoire des planètes. Vous parliez de la vie possible sur la Lune. La Lune, elle est dans une zone autour du Soleil qui est la zone habitable. Mais la Lune est encore beaucoup plus petite que Mars. Mars, c'est la moitié de la Terre. La Lune, c'est le quart de la Terre
en termes de
diamètre. Et donc, je crois que c'est même 2% de la masse de la Terre. Donc, inutile de vous dire que la Lune est totalement refroidie. Inutile de vous rappeler aussi que la Lune n'a absolument aucune atmosphère. Donc, les possibilités de vie, ils sont
impossibles. Nulles. Rappelez-moi la distance de la Terre à la Lune, c'est 350 000
km. La Terre à la Lune, la moyenne, c'est 384 000 km.
Et de Mars?
Eh bien, Mars, quand elle est au plus près, c'est 57 millions de kilomètres, et quand elle est au plus loin, c'est 400 millions de kilomètres.
Un petit avion et c'est bon, il n'y a pas...
Mais oui, la Lune, c'est 4 jours de voyage.
Oui, ça va, ça va.
Et Mars, c'est 6 mois.
C'est 6 mois, oui. Un petit peu plus, quoi. Il faut un peu plus de bagages, c'est tout. un petit détail. En tout cas, c'est un livre magnifique, Mars-Terre, que vous nous avez offert, Philippe Hénarejos, avec des photos, on le disait, de Yann Arthus Bertrand. Rapidement, vos prochains projets, de nouveau un bel album sur Mars.
Je n'ai pas de projet immédiat.
D'accord.
Déjà, je vais savourer
celui-là. Parce que je suis sûr qu'il vous apporte beaucoup de bonheur.
Pour faire un nouveau livre, il faut avoir une idée. Moi, j'aime bien avoir une idée. J'essaie d'avoir une idée originale, d'apporter quelque chose. Donc, ça ne se fait pas tout de suite. Il faut prendre le temps de se poser et d'avoir une envie particulière. Donc, c'était le cas pour ce livre. C'était le cas pour le précédent. Ils ont marché sur la Lune. J'ai raconté l'histoire des 6 équipages qui ont marché sur la Lune et ouais. quelles ont été leurs explorations. Mmh. Donc, de temps en temps, j'ai des envies comme ça. Pour l'instant, je suis un entre deux.
Eh ben, nous sommes très heureux de vos envies. Donc, plaise à vous que vous en ayez plein d'autres pour vous retrouver en tout cas. En tout cas, merci pour ce magnifique livre. Je vous souhaite, Philippe Hénarejos, une belle année et puis à une prochaine fois, j'espère.
De même, et ainsi qu'à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup. Merci, au revoir. Quant à nous, je vous réitère mes voeux de belle année. Nul doute, j'espère qu'elle commencera bien avec ce bel ouvrage Mars et Terre. Voilà, ça nous permettra d'apprendre et de savoir peut-être un peu plus qui nous êtes, qui nous sommes et d'où vous venons. Merci de votre fidélité et bien rendez-vous pour de nouvelles aventures littéraires pour cette année 2023. Merci, à bientôt, au revoir.